Chapitre 2. Cocardas et Passepoil. L'un enfourchait un vieux cheval de labour, à long crin mal peigné, à jambes cagneuses et poilues. L'autre était assis sur un âne, à la manière de châtelaines, voyageant au dos de leur pâle froid. Le premier se portait fièrement, malgré l'humilité de sa monture, dont la tête triste pendait entre les deux jambes. Il avait un pourpoint de buffle lacé, à plastron taillé en cœur, des chausses de tyrtaine piquées, et de ses belles bottes en entonnoir, si fortes à la mode, sous Louis XIII. Il avait en outre un feutre rodomont et une énorme rapière. C'était maître Cocardas junior, natif de Toulouse, ancien maître en fait d'armes de la ville de Paris, présentement établi à Tarbes, où il faisait maigre chère. Le second était d'apparence timide et modeste. Son costume eût pu convenir à un clerc râpé. Un long pourpoint noir, coupé droit comme une soutanelle, couvrait ses chausses noires, que l'usage avait rendues luisantes. Il était coiffé d'un bonnet de laine, soigneusement rabattu sur ses oreilles, et pour chaussures, malgré la chaleur accablante, il avait de bons brodequins fourrés. À la différence de maître Cocardas junior, qui jouissait d'une riche chevelure crépue, noire comme une toison de nègre et largement ébouriffée, son compagnon collait à ses tempes quelques mèches d'un blond déteint. Même contraste entre les deux terribles crocs qui servaient de moustaches au maître d'armes et les trois poils blanchâtres hérissés sous le long nez du prévôt. Car c'était un prévôt, ce paisible voyageur, et nous vous certifions qu'à l'occasion, il maniait vigoureusement la grande vilaine épée qui battait les flancs de son âne. Il se nommait Aimable Passepoil. Sa patrie était Villedieu, en Basse-Normandie, cité qui le dispute au fameux cru de Condé-sur-Noireau pour la production des bondrilles. Ses amis l'appelaient volontiers Frère Passepoil, soit à cause de sa tournure cléricale, soit parce qu'il avait été valet de barbier et rat d'officine chimique avant de ceindre l'épée. Il était laid de toutes pièces, malgré l'éclair sentimental qui s'allumait dans ses petits yeux clignotants quand une jupe de futaine rouge traversait le sentier. Au contraire, Cocardas junior pouvait passer par tous les pays pour un très beau coquin. Ils allaient tous deux cahin cahin sous le soleil du midi. Chaque caillou de la route faisait broncher le bidet de Cocardas. Et tous les 25 pas, le roussin de Passepoil avait des caprices. « Et donc, mon bon, » dit Cocardas avec un redoutable accent gascon, « voilà 2 heures que nous apercevons ce diable de château sur sa montagne maudite. Il me semble qu'il marche aussi vite que nous. » Passepoil répondit, chantant du nez selon la gamme normande. « Patience, patience. Nous arriverons toujours assez tôt pour ce que nous avons à faire là-bas. »« Capé des bioux, frère Passepoil, » fit le gascon avec un gros soupir. « Si nous avions eu un peu de conduite, avec nos talents, nous aurions pu choisir notre besogne. »« Tu as raison, ami Cocardas, » répliqua le Normand. « Mais nos passions nous ont perdus. »« Le jeu, caramba, le vin !»« Et les femmes !» ajouta Passepoil en levant les mains au ciel. Il longeait en ce moment les rives de la Clarabide, au milieu du Val de Louron. Le Hachaz, qui soutenait comme un immense piédestal les constructions massives du château de Quélus, se dressait en face d'eux. Il n'y avait point de rempart de ce côté. On découvrait l'antique édifice, de la base au faîte, et certes, pour des amateurs de grandioses aspects, c'eût été ici une halte obligée. Le château de Quélus, en effet, couronnait dignement cette prodigieuse muraille, fille de quelques grandes convulsions du sol dont le souvenir s'était perdu. Sous les mousses et les broussailles qui couvraient ses assises, on pouvait reconnaître les traces de construction païenne. La robuste main des soldats de Rome avait dû passer par là, mais ce n'était que des vestiges, et tout ce qui sortait de terre appartenait au style lombard des Xe et XIe siècles. Les deux tours principales, qui flanquaient le corps de logis au sud-est et au nord-est, étaient carrées et plutôt trapues que hautes. Les fenêtres, toujours placées au-dessus d'une meurtrière étaient petites, sans ornements, et leurs cintres reposaient sur de simples pilastres dépourvus de moulures. Le seul luxe que se fût permis l'architecte consistait en une sorte de mosaïque. Les pierres, taillées et disposées avec symétrie, étaient séparées par des briques saillantes. C'était le premier plan, et cette ordonnance austère restait en harmonie avec la nudité du hachaz. Mais derrière la ligne droite de ce vieux corps de logis, qui semblait bâti par Charlemagne, un fouillis de pignons et de tourelles suivait le plan ascendant de la colline et se montrait en amphithéâtre. Le donjon, haute tour octogone, terminé par une galerie byzantine à arcades tréflées, couronnait cette cohue de toiture, semblable à un géant debout parmi des nains. Dans le pays, on disait que le château était bien plus ancien que les Quélus eux-mêmes. À droite et à gauche des deux tours lombardes, deux tranchées se creusaient. C'étaient les deux extrémités des douves qui étaient autrefois bouchées par des murailles afin de contenir l'eau qui les emplissait. Au-delà des douves du nord, les dernières maisons du hameau de Taride se montraient parmi les hêtres. En dedans, on voyait la flèche de la chapelle, bâtie au commencement du XIIIe siècle dans le style ogival, et qui montrait ses croisées jumelles avec les vitraux étincelants de leurs quintes feuilles de granit. Le château de Quélus était la merveille des vallées pyrénéennes. Mais Coquardas junior et frère Passepoil n'avaient point le goût des beaux-arts. Ils continuèrent leur route, et le regard qu'ils jetèrent à la sombre citadelle ne fut que pour mesurer le restant de la route à parcourir. Ils allaient au château de Quélus, et bien que, à vol d'oiseau, une demi-lieue à peine les en séparât encore, la nécessité où ils étaient de tourner le hachaz les menaçait d'une bonne heure de marche. Ce Coquardas devait être un joyeux compagnon quand sa bourse était ronde. Frère Passepoil lui-même avait sur sa figure naïvement futée tous les indices d'une bonne humeur habituelle. Mais aujourd'hui ils étaient tristes et ils avaient leur raison pour cela. Estomac vide, gousset plat, perspective d'une besogne probablement dangereuse. On peut refuser semblable besogne quand on a du pain sur la planche. Malheureusement pour Coquardas et Passepoil, leur passion avait tout dévoré. Aussi, Coquardas disait « Cap et des bioux, je ne toucherai plus ni une carte, ni un verre. Je renonce pour jamais à l'amour, » ajoutait le sensible Passepoil. Et tous deux bâtissaient de beaux rêves bien vertueux sur leurs futures économies. « J'achèterai un équipage complet !» s'écriait Coquardas avec enthousiasme. « Et je me ferai soldat dans la compagnie de notre petit Parisien. » « Moi de même !» appuyait Passepoil. « Soldat ou valet du major chirurgien. »« Ne ferais-je pas un beau chasseur du roi ?»« Le régiment où je prendrais du service serait sûr, au moins, d'être saigné proprement. » Et tous deux reprenaient. « Nous verrions le petit Parisien. Nous lui épargnerions bien quelques orions de temps en temps. »« Il m'appelait encore son vieux Coquardas. » Il se moquerait de frère Passepoil, comme autrefois. « Trente de l'air !» s'écria le Gascon, en donnant un grand coup de poing à son bidet, qui n'en pouvait mais. « Nous sommes descendus bien bas pour des gens d'épée, mon bon. Mais à tout péché, miséricorde. Je sens qu'avec le petit Parisien, je m'amenderai. » Passepoil secoua la tête tristement. « Qui sait s'il voudra nous reconnaître ? » demanda-t-il en jetant un regard découragé sur son accoutrement. « Eh, mon bon !» fit Coquardas. « C'est un cœur que ce garçon-là !»« Quelle garde !» soupira Passepoil. « Et quelle vitesse !»« Quelle tenue sous les armes ! Et quelle rondeur !»« Te souviens-tu de son coupé de revers en retraite ?»« Te rappelles-tu ces trois coups droits annoncés dans la sauchée de l'épine ?»« Un cœur ! Un vrai cœur ! Heureux au jeu, toujours, capé des bioux, et qui savait boire, et qui tournait la tête des femmes. » À chaque réplique, ils s'échauffaient. Ils s'arrêtèrent d'un commun accord pour échanger une poignée de main. Leur émotion était sincère et profonde. « Morbius !» fit Coquardas. « Nous serons ses domestiques s'il veut, le petit Parisien. N'est-ce pas, mon bon ?»« Et nous ferons de lui un grand seigneur !» acheva Passepoil. « Comme ça, l'argent du Pérol ne nous portera pas malchance. » C'était donc Monsieur de Pérol, l'homme de confiance de Philippe de Gonzague, qui faisait voyager ainsi Maître Coquardas et Frère Passepoil. Il connaissait bien ce Pérol, et mieux encore Monsieur de Gonzague, son patron. Avant d'enseigner au hobereau de Tarbes ce noble et dignard de l'escrime italienne, ils avaient tenu salle d'armes à Paris, rue Croix des Petits Champs, à deux pas du Louvre. Et sans le trouble que les « passions » apportaient dans leurs affaires, peut-être qu'ils eussent fait fortune, car la cour tout entière venait chez eux. C'étaient deux bons diables, qui avaient fait sans doute, en un moment de presse, quelque terrible fredaine. Ils jouaient si bien de l'épée. Soyons cléments, et ne cherchons pas trop pourquoi, mettant la clé sous la porte un beau jour, ils avaient quitté Paris comme si le feu eût été à leur chausse. Il est certain qu'à Paris, en ce temps-là, les maîtres en fait d'armes se frottaient aux plus grands seigneurs. Ils savaient souvent le dessous des cartes mieux que les gens de cour eux-mêmes. C'étaient de vivantes gazettes. Jugez si Passepoil, qui en outre avait été barbier, devait en connaître de belles. En cette circonstance, ils comptaient bien tous deux tirer parti de leur science. Passepoil avait dit, en partant de Tarbes, « C'est une affaire où il y a des millions. Nevers est la première lame du monde, après le petit Parisien. S'il s'agit de Nevers, il faut qu'on soit généreux. » Et Coquardas n'avait pu qu'approuver chaudement un discours si sage. Il était 2 heures après-midi quand ils arrivèrent au hameau de Taride, et le premier paysan qu'ils rencontrèrent leur indiqua l'auberge de la Pomme d'Adam. À leur entrée, la petite salle basse de l'auberge était déjà presque pleine. Une jeune fille, ayant la jupe éclatante et le corsage lacé des paysannes de foi, servait avec empressement, apportant broc, gobelet d'étain, feu pour les pipes dans un sabot, et tout ce que peuvent réclamer 6 vaillants hommes après une longue traite accomplie sous le soleil des vallées pyrénéennes. À la muraille pendaient 6 fortes rapières avec leur attirail. Il n'y avait pas là une seule tête qui ne portât le mot « spadassin » écrit en lisible caractère. C'était toute figure bronzée, tout regard impudent, toutes effrontées moustaches. Un honnête bourgeois, entrant par hasard en ce lieu, serait tombé de son haut rien qu'à voir ses profils de bravache. Ils étaient 3 à la première table, auprès de la porte. 3 Espagnols, on pouvait le juger à la mine. À la table suivante, il y avait un Italien, balafré du front au menton, et vis-à-vis de lui, un coquin sinistre dont l'accent dénonçait l'origine allemande. Une 3e table était occupée par une manière de rustre à la longue chevelure inculte qui grasseyait le patois de Bretagne. Les 3 Espagnols avaient nom Saldagne, Pinto et Pepe, dit El Matador, toutes 3 escrimidores, l'un de Murcie, l'autre de Séville, le 3e de Pampelune. L'Italien était un bravo de Spolète. Il s'appelait Giuseppe Faenza. L'Allemand se nommait Stopitz, le bas breton Joël de Jugan. C'était Monsieur de Pérol qui avait rassemblé toutes ses lames. Il s'y connaissait. Quand Maître Coquardas et Frère Passepoil franchirent le seuil du cabaret de la Pomme d'Adam, après avoir mis leur pauvre monture à l'étable, ils firent tous deux un mouvement en arrière à la vue de cette respectable compagnie. La salle basse n'était éclairée que par une seule fenêtre, et dans ce demi-jour, la fumée des pipes mettait un nuage. Nos deux amis ne virent d'abord que les moustaches en crocs saillants hors des maigres profils, et les rapières pendues à la muraille. Mais 6 voix enrouées crièrent à la fois « Maître Coquardas ! Frère Passepoil ! » Non sans accompagnement de jurons assortis. Jurons des États du Saint-Père, jurons des bords du Rhin, jurons de Quimper-Corentin, jurons de Murcie, de Navarre et d'Andalousie. Coquardas mit sa main en visière au-dessus de ses yeux.
« As pas pur !» s'écria-t-il. « Todos camaradas !»«
Tous des anciens !» traduisit Passepoil, qui avait la voix encore un peu tremblante. Ce Passepoil était un poltron de naissance, que le besoin avait fait brave. La chair de poule lui venait pour un rien, mais il se battait mieux qu'un diable. Il y eut des poignées de main échangées, de bonnes poignées de main qui broient les phalanges. Il y eut grande dépense d'accolade. Les pourpoints de soie se frottèrent les uns contre les autres. Le vieux drap, le velours pelé entrèrent en communication. On eût trouvé de tout dans le costume de ces intrépides, excepté du linge blanc. De nos jours, les maîtres d'armes, ou pour parler leur langue, messieurs les professeurs d'escrime, sont de sages industriels, bons époux, bons pères, exerçant honnêtement leur état. Au XVIIe siècle, un virtuose d'estoc et de taille était une manière de Mondor, favori de la cour et de la ville, ou bien un pauvre diable obligé de faire pique-pendre pour boire son sou de mauvais vin à la gargote. Il n'y avait pas de milieu. Nos camarades du cabaret de la pomme d'Adam avaient eu peut-être leur bonjour, mais le soleil de la prospérité s'était éclipsé pour eux tous. Ils étaient manifestement battus par le même orage. Avant l'arrivée de Coquardas et de Passepoil, les trois groupes distincts n'avaient point lié familiarité. Le breton ne connaissait personne. L'allemand ne frayait qu'avec le spolétan, et les trois espagnols se tenaient fièrement à leur écho. Mais Paris était déjà un centre pour les beaux-arts. Des gens comme Coquardas junior et Amable Passepoil, qui avaient tenu table ouverte dans la rue Croix des Petits Champs, au revers du Palais-Royal, devaient connaître tous les fendants de l'Europe. Ils servirent de trait d'union entre les trois groupes, si bien fait pour s'apprécier et s'entendre. La glace fut rompue, les tables se rapprochèrent, les bros se mêlèrent et les présentations eurent lieu dans les formes. On connut les titres de chacun. C'était à faire dresser les cheveux. Ces cire à pierre accrochées à la muraille avaient taillé plus de chair chrétienne que les glaives réunis de tous les bourreaux de France et de Navarre. Le Quimpérois, s'il eût été huron, aurait porté deux ou trois douzaines de perruques à sa ceinture. Le spolétan pouvait avoir vingt et quelques spectres dans ses rêves. L'Allemand avait massacré deux Gograves, trois Margraves, cinq Ringraves et un Landgrave. Il cherchait un Burgrave. Et ce n'était rien auprès des trois Espagnols qui se fussent noyés aisément dans le sang de leurs innombrables victimes. Pépé le tueur, El Matador, ne parlait jamais que d'embrocher trois hommes à la fois. Nous ne saurons rien dire de plus flatteur à la louange de notre Gascon et de notre Normand. Ils jouissaient de la considération générale dans ce conseil de Tranche-Montagne. Quand on eut bu la première tournée de bro et que le brouhaha des venteries se fut un peu apaisé, Coquardas dit « Maintenant, mes mignons, causons de nos affaires !» On appela la fille d'auberge, tremblante au milieu de ces cannibales, et on lui commanda d'apporter d'autres vins. C'était une grosse brune un peu louche. Passepoil avait déjà dirigé vers elle l'artillerie de ses regards amoureux. Il voulut la suivre pour lui parler, sous prétexte d'avoir du vin plus frais. Mais Coquardas le saisit au collet. « Tu as promis de maîtriser tes passions, mon bon !» lui dit-il avec dignité. Frère Passepoil se rassit, en poussant un gros soupir. Dès que le vin fut apporté, on renvoya la Maritorne, avec ordre de ne plus revenir. « Mais mignon, reprit Coquardas junior, nous ne nous attendions pas, frère Passepoil et moi, à rencontrer ici une si chère compagnie, loin des villes, loin des centres populeux où généralement vous exercez vos talents. « Ohimé, interrompit le spadassin de Spolette. « Connais-tu des villes où il y ait maintenant de la besogne, toi, Coquardas, caro mio ?» Et tous secouèrent la tête en hommes qui pensent que leur vertu n'est point suffisamment récompensée. Puis Saldagne demanda « Ne sais-tu point pourquoi nous sommes en ce lieu ?» Le Gascon ouvrait la bouche pour répondre lorsque le pied de frère Passepoil s'appuya sur sa botte. Coquardas junior, bien que chef nominal de la communauté, avait l'habitude de suivre les conseils de son prévôt, qui était un Normand prudent et sage. « Je sais, répliqua-t-il, qu'on nous a convoqués. »« C'est moi, interrompit Stopitz. »« Et que, pour les cas ordinaires, acheva le Gascon, frère Passepoil et moi, nous suffisons pour un coup de main. »« Carajo ! » s'écria le tueur. « Quand je suis là, d'habitude, on n'en appelle point d'autres. » Chacun varia ce thème suivant son éloquence ou son degré de vanité. Puis Coquardas conclut. « Allons-nous donc avoir affaire à une armée ? » « Nous allons avoir affaire, répondit Staupitz, à un seul cavalier. » Staupitz était attaché à la personne de M. de Pérol, l'homme de confiance du prince Philippe de Gonzague. Un bruyant éclat de rire accueillit cette déclaration. Coquardas et Passepoil riaient plus haut que les autres, mais le pied du Normand était toujours sur la botte du Gascon. Cela voulait dire « Laisse-moi mener cela. » Passepoil demanda candidement. « Et quel est le nom de ce géant qui combattra contre 8 hommes ?»«
Dont chacun, sans dire où, vaut une demi-douzaine de bondrilles, » ajouta Coquardas.
Staupitz répondit.
« C'est le duc Philippe de Nevers. »«
Mais on le dit mourant !»
se récria Saldagne.
« Poussif !»
ajouta Pinto.
« Surmené, cassé, pulmonaire !» achevèrent les autres.
Coquardas et Passepoil ne disaient plus rien. Celui-ci secoua la tête lentement, puis il repoussa son verre. Le Gascon l'imita. Leur gravité soudaine ne put manquer d'exciter l'attention générale.
« Qu'avez-vous ? Qu'avez-vous donc ? » demanda-t-on de toutes parts.
On vit Coquardas et son prévôt se regarder en silence.
« Ah ça ! Que diable signifie cela ? »
s'écria Saldagne, ébahi.
« On dirait, ajouta Faenza, que vous avez envie d'abandonner la partie. »
« Mais mignon, répliqua gravement Coquardas, on ne se tromperait pas beaucoup. » Un tonnerre de réclamations couvrit sa voix. « Nous avons vu Philippe de Nevers à Paris, reprit doucement frère Passepoil. Il venait à notre salle. C'est un mourant qui vous taillera des croupières. »«
À nous ? » se récria le cœur.
Et toutes les épaules de se hausser avec dédain.
Je vois, dit Coquardas, dont le regard fit le tour du cercle, que vous n'avez jamais entendu parler de la botte de Nevers.
On ouvrit les yeux et les oreilles. La botte du vieux maître de la Palme, ajouta Passepoil, qui mit bas 7 prévôts entre le bourg du Roule et la porte Saint-Honoré.
Fadaise que ces bottes secrètes, s'écria le tueur.
Pompier, bon œil, bonne garde, ajouta le breton, je me moque des bottes secrètes comme du déluge.
Asse pas pur, fit Coquardas junior avec fierté. Je pense avoir bon pied, bon œil et bonne garde, mes mignons.
Moi aussi, appuya Passepoil.
Aussi bon pied, aussi bonne garde, aussi bon œil que pas un de vous.
À preuve, glissa Passepoil avec sa douceur ordinaire, que nous sommes prêts à en faire l'essai si vous voulez.
« Et cependant, reprit Coquardas, la botte de Nevers ne me paraît pas une fadaise. J'ai été touché dans ma propre académie, et donc ?»«
Moi de même. » »«
Touché en plein front, entre les deux yeux, et 3 fois de suite. »«
Et 3 fois, moi, entre les deux yeux, en plein front. »«
3 fois, sans pouvoir trouver l'épée à la parade. »
Les 6 padassins écoutaient maintenant, attentifs. Personne ne riait plus.
Alors, dit Saldagne qui se signa, ce n'est pas une botte secrète, c'est un charme.
Le bas breton mit sa main dans sa poche où il devait bien avoir un bout de chapelet.
On a bien fait de nous convoquer tous, mes mignons, reprit Coquardas avec plus de solennité. Vous parliez d'armée, j'aimerais mieux une armée. Il n'y a, croyez-moi, qu'un seul homme au monde capable de tenir tête à Philippe de Nevers, l'épée à la main.
« Et cet homme ? » firent 6 voix en même temps.
« C'est le petit Parisien, » répondit Coquardas.
« Ah, celui-là ! » s'écria Passepoil avec un enthousiasme soudain. « C'est le diable !»«
Le petit Parisien ? » répétait-on à la ronde. « Il a un nom, votre petit Parisien ?»«
Un nom que vous connaissez tous, mes maîtres. » Il s'appelle le chevalier de la Gardère.
Il paraîtrait que les estafiers connaissaient tous ce nom, en effet, car il se fit parmi eux un grand silence.
« Je ne l'ai jamais rencontré, » dit ensuite Saldagne. « Tant mieux pour toi, mon bon, » répliqua le Gascon. « Il n'aime pas les gens de ta tournure. »«
C'est lui qu'on appelle le beau Lagardère ?» demanda Pinto.
« C'est lui, » ajouta Faenza en baissant la voix. Qui tua les 3 prévôts flamands sous les murs de Senlis ?
C'est lui, voulut dire Joël de Jugan, qui...
Mais Coquardas l'interrompit en prononçant avec emphase ces seuls mots. « Il n'y a pas deux Lagardère !»